Saviez-vous que derrière la fête de Pâques se cache un récit bien plus ancien que le christianisme? Mort, résurrection, sacrifice et régénération de la nature. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les origines complexes de l'un des plus grands symboles initiatiques de l'humanité. Pour tous les chrétiens, la fête de Pâques occupe une place centrale. Elle ne commémore ni une naissance, ni un enseignement moral particulier, mais l'événement théologique fondateur du christianisme, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, dans notre monde moderne, la célébration de Noël a supplanté Pâques dans le champ social. Cela s'explique par de nombreuses raisons. Tout d'abord, la déchristianisation de la société, l'aspect plus commercial et festif de Noël, et aussi le fait que Noël a une date fixe. Néanmoins, Pâques est beaucoup plus importante sur le plan théologique, mais aussi plus ancienne en tant que célébration chrétienne. Sans Pâques, il n'y aurait pas de christianisme au sens où nous l'entendons. Ainsi, je vous propose de remonter le temps pour découvrir les origines et l'histoire de cette célébration. Selon les évangiles canoniques, Jésus de Nazareth fut crucifié à Jérusalem à la suite de l'accusation portée par les autorités juives de l'époque et de la condamnation prononcée par les autorités romaines qui occupaient la région. Suivant le récit évangélique, après le dernier repas partagé avec les disciples, le jeudi ou la scène, Jésus est arrêté de nuit au jardin de Gethsémani, puis interrogé par les autorités religieuses juives avant d'être livré au préfet romain, Ponce Pilate. Jugé pour sédition et prétention royale, il est condamné à la crucifixion. Conduit au Golgotha, dans d'atroces souffrances, il meurt sur la croix avant d'être enseveli dans un tombeau le vendredi. Au troisième jour, le dimanche matin, son tombeau est retrouvé ouvert et vide. Et dans la suite du récit, Jésus va apparaître vivant à plusieurs reprises et à plusieurs de ses disciples. Mais cette suite d'événements n'est pas présentée comme étant une simple exécution suivie d'une résurrection. Dans les croyances chrétiennes, Jésus s'offre lui-même en sacrifice pour racheter les péchés de l'humanité, ouvrant ainsi la voie à la rédemption et au salut pour tous. Cet événement est présenté comme historique par les textes chrétiens et interprété comme étant la victoire définitive sur la mort. Avec cet acte, Jésus n'est plus seulement un maître spirituel ou un prophète, mais le Fils de Dieu, le vainqueur du péché et de la mort. Alors, sur un plan plus strictement historique, il n'existe aucune source non chrétienne pour attester de cette suite d'événements. Néanmoins, ce récit, qu'il soit légendaire ou historique, a rapidement engendré une célébration, la fête de Pâques, qui est ainsi la plus ancienne fête attestée du christianisme et ce, depuis le 1er siècle. Contrairement à Noël ou la nativité de Jésus, dont la célébration se fixe seulement au 4e siècle de notre ère, ou encore l'Épiphanie, qui apparaît au 3e siècle, Pâques, ou la commémoration de la résurrection, apparaît très tôt dans les communautés chrétiennes. Des sources du 2e siècle attestent déjà de célébrations pascales structurées, bien avant la reconnaissance officielle du christianisme par l'Empire romain. Cette ancienneté s'explique par la proximité directe entre les premières communautés chrétiennes et l'événement fondateur qu'elle proclame. De plus, c'est probablement la seule fête du christianisme à ne pas avoir puisé directement sa source dans les célébrations païennes. À titre comparatif, Noël est clairement une récupération des rites du solstice d'hiver et de la renaissance du soleil. L'Épiphanie provient de l'ancienne fête des 12 dieux Épiphanes ou Olympiens. Ou encore la Chandeleur, qui provient des diverses fêtes de purification à l'annonce du printemps. Lupercale, Fête de l'Ours, Imbolc, etc., etc. Mais bien que n'étant pas inspiré directement des fêtes païennes, Pâques en partage néanmoins de nombreux aspects symboliques, comme nous le verrons au cours de cette émission. Pour le moment, restons dans un cadre strictement chrétien et intéressons-nous à la symbolique et aux croyances qui entourent la fête des fêtes du christianisme. D'un point de vue théologique, la résurrection n'est pas un simple retour à la vie, mais une transformation de la condition humaine. Elle inaugure la promesse d'une résurrection future pour l'humanité tout entière à la fin des temps. Le mystère pascal représente ainsi le cœur du message chrétien. La mort n'est plus la fin, mais un passage. Jésus y est présenté comme ayant la double nature, humaine et divine. Pâques exprime ainsi la victoire de la vie sur la mort. La mort et la résurrection du Christ sont comprises comme étant un acte de rédemption. En mourant, Jésus assume la condition humaine marquée par le péché. En ressuscitant, il ouvre un chemin de libération. Dans cette dynamique de mort et de renaissance et de transformation qui constitue le cœur du mystère pascal, le chrétien est invité à s'unir au Christ dans sa mort et sa résurrection afin d'accéder à la vie éternelle délivrée de l'esclavage du mal. C'est ainsi que depuis presque 2000 ans, les chrétiens célèbrent la Pâque comme une fête de passage et d'espérance, où les ténèbres cèdent la place à la lumière. Néanmoins, cela n'est pas sans poser quelques difficultés, à commencer par la date de la célébration. Ce qui va nous conduire à aborder le calcul de la date de Pâques. Car contrairement à Noël ou la Toussaint, qui sont fondés sur un calendrier solaire, Pâques ne possède pas de date fixe. Son calcul résulte d'un long processus historique et théologique. Marqué, disons-le, par des débats internes et des tentatives successives d'unification. À l'origine, la fête chrétienne de Pâques est étroitement liée à la fête juive de la Pessah, célébrée le 14e jour du mois de Nissan selon un calendrier lunisolaire, donc dépendant des phases de la Lune. Dès le 2e siècle, une divergence apparaît entre les différentes communautés chrétiennes. Certaines célèbrent la résurrection le 14 Nissan, quel que soit le jour de la semaine, tandis que d'autres estiment que Pâques doit nécessairement être célébré un dimanche, jour traditionnel de la résurrection du Christ. Alors, ce désaccord, innocent en apparence, relève en réalité d'une tension très importante dans le christianisme des premiers temps, qui oscille entre continuité avec le judaïsme et affirmation d'une identité chrétienne distincte. Le problème est aggravé par la coexistence de plusieurs systèmes de calcul, calendrier lunisolaire, juif, calendrier solaire romain, cycle métronique en astronomie, entraînant des célébrations de Pâques à des dates différentes selon les régions. Alors, tout au long du 3e et du 4e siècle, divers théologiens et évêques vont proposer des systèmes de calcul pascal visant à harmoniser le calcul sans parvenir néanmoins à une solution. Finalement, une règle est formalisée au 4e siècle lors du Concile de Nicée, qui fixe la célébration de Pâques au premier dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, fixé de façon conventionnelle au 21 mars. Néanmoins, des divergences vont quand même apparaître entre les églises chrétiennes qui utilisent des calendriers différents. Les églises occidentales, catholiques et protestantes, utilisent le calendrier grégorien, tandis que les églises orthodoxes se réfèrent encore au calendrier julien. Ce décalage explique que Pâques ne soit pas célébré à la même date selon les pays, avec parfois plusieurs semaines d'écart. Le problème n'est pas tant dans le système de calcul de la date de Pâques, mais dans le point de référence du 21 mars, considéré comme le jour de l'équinoxe. Prenons un exemple récent pour illustrer la problématique. En 2019, la date de Pâques a été fixée au dimanche 21 avril, suivant la première pleine lune qui faisait suite au 21 mars, soit la pleine lune du vendredi 19 avril. Mais, problème, la date de l'équinoxe était en fait le mercredi 20 mars 2019 à 21h58, et la première pleine lune qui faisait suite à cet équinoxe a eu lieu le jeudi 21 mars 2019 à 2h42. Donc, sur un plan astronomique, la date de Pâques aurait dû être le dimanche 24 mars et non le 21 avril. Alors, évidemment, ce type de hasard de calendrier n'est pas très fréquent. Mais cela arrive et ce n'est pas sans poser quelques controverses au sein de l'Église lorsqu'une pleine lune a lieu le 21 mars. De plus, il est important de noter que Pâques étant la fête centrale du christianisme, sa date annuelle va définir la position des fêtes mobile qui la précède et qui la suivent sur le calendrier. L'ouverture du carême, 40 jours avant Pâques. Le dimanche des rameaux, 7 jours avant Pâques. L'ascension, 40 jours après Pâques. Et la Pentecôte, 50 jours après Pâques, etc. Alors, maintenant, au-delà de ses origines historiques et théologiques, il va falloir nous intéresser aux traditions et pratiques rituelles de la fête de Pâques. Si Pâques possède un socle théologique commun à l'ensemble du christianisme, les formes de célébration varient fortement selon les confessions, les cultures et les époques. Dans la tradition de l'Église catholique, Pâques est précédée par la Semaine Sainte, point culminant de l'année liturgique. Celle-ci s'ouvre avec le dimanche des Rameaux, commémorant le souvenir de l'entrée de Jésus à Jérusalem, puis la semaine se poursuit les lundis, mardis et mercredis avec les préparations liturgiques. Puis vient le jeudi et la commémoration de la scène, le dernier repas du Christ et de ses disciples. Le vendredi ensuite est un jour de jeûne et d'abstinence de viande. On y commémore la crucifixion de Jésus et les églises sont dépouillées, les cloches se taisent et la liturgie insiste sur la mort du Christ. S'ensuit un jour de recueillement et de silence, le samedi, qui culmine avec la vigile pascale ou la veillée pascale, la nuit du samedi au dimanche. Elle commence après la tombée de la nuit et se termine avant l'aube du dimanche. Le feu nouveau est allumé, le cierge pascal est béni. La vigile pascale est le moment le plus fort de l'année liturgique. C'est souvent l'occasion d'ailleurs pour les nouveaux croyants de recevoir le sacrement du baptême. Et autrefois, il était obligatoire d'assister à la célébration, de communier et de se confesser au préalable. Enfin, le dimanche, c'est la célébration de la résurrection par la messe du jour. Dans l'Église orthodoxe, Pâques est souvent appelée la fête des fêtes et elle revêt une dimension liturgique et mystique très marquée. La semaine 5 orthodoxe est particulièrement exigeante, mêlant des jeûnes stricts, des offices prolongés et des chants anciens et en grand nombre. La célébration pascale se déroule majoritairement la nuit, de samedi à dimanche, et à minuit, le prêtre proclame la résurrection du Christ et la lumière se transmet de fidèle en fidèle à partir du cierge pascal. Le chant « Le Christ est ressuscité » résonne alors comme une affirmation collective de la foi. Le symbole est ici très cosmique. La résurrection est perçue non seulement comme un événement historique, mais comme étant une transfiguration de l'univers tout entier. Et après la liturgie, les fidèles rompent le jeûne par un repas festif où la nourriture devient elle-même le signe de la renaissance et de l'abondance. Dans les traditions issues de la réforme protestante, Pâques conserve évidemment une importance doctrinale majeure. Mais elle s'exprime de manière plus sobre. La résurrection du Christ est affirmée comme le fondement de la foi, mais sans l'abondance rituelle propre aux traditions catholiques et orthodoxes. Les cultes pascals mettent l'accent sur la lecture biblique, la prédication et la compréhension personnelle du message de la résurrection. Les éléments symboliques sont moins nombreux, mais le sens théologique demeure central. C'est la victoire du Christ sur la mort qui garantit la justification et le salut par la foi. À noter que dans les autres confessions chrétiennes, églises orientales anciennes, églises évangéliques ou communautés indépendantes diverses, Pâques est célébrée selon des formes très variées. Certaines mettent l'accent sur la résurrection comme expérience spirituelle personnelle, d'autres sur la dimension communautaire et festive. Malgré ces différences, un point commun subsiste. Pâques demeure le moment où le christianisme affirme son cœur doctrinal au-delà des divergences liturgiques ou théologie. Évidemment, comme vous vous doutez, l'importance de cette fête a engendré nombre de pratiques cultuelles en rapport direct ou indirect avec la symbolique de Pâques. Et justement, nous allons les explorer. À côté des célébrations liturgiques des différentes églises, la fête de Pâques s'est progressivement enrichie d'un ensemble de traditions populaires qui puissent parfois dans les traditions païennes plus anciennes. Dans l'ensemble, elles sont tolérées par l'Église, un peu de la même façon que la coutume de l'arbre de Noël qui puise ses origines dans les coutumes païennes germaines. Alors, voyons certaines de ces traditions populaires. La plus connue est bien sûr l'œuf de Pâques, symbole de la vie et de la naissance. Bien avant le christianisme, l'œuf fut associé à la naissance du monde, à la fécondité et à la régénération. On le retrouve dans de nombreuses mythologies antiques comme image du cosmos en gestation sous la forme de l'œuf cosmique. Une tradition qui est présente dans de nombreuses cultures. En Inde, de l'œuvre de Brahma émergent les cieux, la terre et les dieux du panthéon. En Chine, l'éclosion de l'œuf cosmique engendre la naissance de Pangu, le premier être divin, et les deux parties de l'œuf brisé représentent le ciel et la terre, ou le yin et le yang. Chez les Grecs, dans la tradition orphique, l'œuf cosmique engendre le phanès, protogonos, le principe lumineux et démiurge créateur. Et on retrouve encore la présence de cet œuf cosmique chez les Celtes, les Égyptiens et même chez les Dogons du Mali. Dans le cadre du christianisme, l'œuf devient le symbole de la résurrection. La coquille fermée évoque le tombeau et la vie qui en sort, qui renvoie au Christ ressuscité. Dès le Moyen-Âge, on offre des œufs bénis à Pâques, notamment parce que leur consommation était interdite pendant le carême. De façon extrêmement pragmatique, leur accumulation durant cette période de jeûne explique leur présence massive lors des fêtes pascales. À l'époque moderne, l'œuf décoré se répand dans toute l'Europe. Plus tard, la tradition de l'œuf en chocolat apparaît évidemment plus tardivement, au 19e siècle, avec le développement de la chocolaterie industrielle, transformant un symbole rituel en objet festif et commercial. Dans la continuité symbolique, la chasse aux œufs évoque la recherche de la vie nouvelle, dissimulée dans la nature renaissante du printemps. Elle peut également être interprétée comme étant une transposition ludique du tombeau vide. L'œuf absent, puis retrouvé, devient une métaphore de la résurrection. D'origine germanique et alsacienne, cette chasse aux œufs consiste à dissimuler des œufs dans les jardins ou les champs afin que les enfants doivent les retrouver. Avec le temps, cette pratique s'est largement sécularisée, perdant sa dimension religieuse explicite, mais conservant son lien profond avec le renouveau saisonnier. Une autre tradition issue du monde germanique, à partir du XVIIe siècle, est la figure du lapin de Pâques. Animal prolifique, associé à la fertilité et au printemps, le lapin, ou le lièvre, était déjà présent dans les traditions paléennes en lien avec la renaissance de la nature. Progressivement, le lapin devient le messager, chargé d'apporter ou de cacher les œufs. Et on retrouve ici le rôle initiatique du lapin, à l'image de l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. Par la suite, cette figure du lapin s'impose dans toute l'Europe occidentale, puis dans le monde anglo-saxon, avant de devenir un emblème commercial de la fête de Pâques. Dans un registre culinaire, la fête de Pâques n'est pas en reste. Après 40 jours de carême, Pâques marque le retour de l'abondance. Ainsi, la table pascale occupe une place essentielle dans les traditions populaires. Agneaux, œufs, pains spéciaux et pâtisseries symbolisent la fin de la privation et le retour de la vie, l'avènement des beaux jours. L'agneau pascal, quant à lui, prend le rôle symbolique du Christ, celui qui se sacrifie ou s'offre au monde pour le salut de l'humanité. D'où le titre de Jésus, Agnus Dei, l'agneau de Dieu. Bien sûr, cette tradition de l'agneau pascal puise elle aussi ses origines dans les cultes plus anciens. En premier lieu, dans le judaïsme, où l'agneau représente plusieurs choses. C'est l'agneau offert en sacrifice par Abraham à la place d'Isaac qui constitue un premier modèle sacrificiel. Mais cette symbolique se retrouve également dans la Pécha, la Pâque juive, lors de l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Moïse ordonne alors que des agneaux soient sacrifiés et que leur sang soit apposé sur les linteaux et les montantes portes des maisons des Hébreux, afin que l'ange de Dieu épargne leur foyer et ne frappe ou ne tue que les premiers-nés des Égyptiens. Outre les origines juives, il existe de nombreuses traditions païennes liées à l'élevage où l'agneau ou un autre animal est sacrifié au moment des fêtes de printemps. Dans la Rome antique, Parilia, au 21 avril, est une fête pastorale de purification. Des moutons et les bovins sont impliqués dans des rites de fumigation et de sacrifice pour protéger les troupeaux et garantir leur fécondité. Dans le monde celtique, Beltane, au 1er mai, est aussi une fête de renouveau saisonnier. Des animaux d'élevage, bovins, ovins, etc. sont parfois sacrifiés ou soumis à des rites de passage symboliques pour assurer protection et abondance. À noter cependant que, pour l'Église catholique, la coutume culinaire de l'agneau pascal n'est pas un sacrifice religieux. Il s'agit d'une tradition culturelle et symbolique sans valeur rituelle ou liturgique. Le seul et unique sacrifice reconnu par les églises chrétiennes est celui du Christ, conçu comme unique et définitif. A contrario, au XXIe siècle, il existe encore des sacrifices rituels d'animaux, notamment dans l'islam lors de la fête de l'Aïd. Toujours dans les coutumes populaires, nous trouvons les feux de Pâques et les rites de purification associés. Dans plusieurs régions d'Europe, notamment dans les zones rurales, on allumait autrefois des feux au moment de Pâques. Ces feux, parfois bénis par le clergé, avaient pour fonction symbolique de chasser l'hiver, de purifier l'espace communautaire et d'accompagner le retour de la lumière. Ces pratiques s'inscrivent dans une continuité très ancienne, héritée des rites saisonniers chrétiens liés à l'équinoxe de printemps. Le christianisme les a partiellement intégrés en leur donnant une lecture nouvelle, la lumière du feu devenant celle du Christ ressuscité. Dans le même esprit, il existe une curieuse pratique en Espagne et en Amérique latine, le bûcher de Judas. La tradition consiste à insulter, battre puis brûler une effigie de Judas Iscariote, incarnation de la trahison. Ce rite populaire, parfois très violent dans sa symbolique, transformait le récit évangélique en jugement collectif. Au-delà de la figure biblique, ce bûcher fonctionnait comme un exutoire social, permettant de canaliser les tensions et les frustrations au sein de la communauté. Donc comme vous le voyez, nous avons un vaste ensemble de pratiques cultuelles entourant la fête de Pâques. Et c'est ici que l'on observe le plus nettement l'héritage païen au sein même de la chrétienté. Il nous faut donc maintenant revenir une nouvelle fois dans le passé afin d'examiner quelles étaient les célébrations antiques comprises entre la date la plus précoce possible de Pâques, le 22 mars, et la date la plus tardive possible pour Pâques, le 25 avril. La fête de Pâques, à l'image de toutes les autres fêtes chrétiennes, n'apparaît pas dans un vide culturel et symbolique. Les populations nouvellement converties avaient déjà leurs propres héritages culturels et religieux. En premier lieu, pour comprendre Pâques, cela implique de revenir sur les racines juives de la fête de Pessah. Le christianisme apparaît au sein de la culture juive, et bien qu'il s'en distinguera nettement par la suite, le judaïsme n'en forme pas moins son cadre référentiel de base. Selon les évangiles, la mort de Jésus intervient précisément au moment de Pessah, fête commémorant la sortie d'Égypte et la libération du peuple hébreu de l'esclavage. Donc, historiquement et théologiquement, la Pâque chrétienne est indissociable de cette célébration. Dans les croyances du judaïsme, Pessah célèbre le passage de l'esclavage à la liberté, de l'oppression égyptienne à l'alliance avec Dieu. Le sang de l'agneau, marqué sur les portes, protège les Hébreux lors de la dernière plaie d'Égypte, tandis que la traversée de la mer Rouge constitue l'acte fondateur d'un peuple libéré. En somme, c'est la célébration de l'acte fondateur ou du roman national juif. Dans le cadre du christianisme, Jésus devient l'agneau pascal, dont le sacrifice n'assure plus la libération d'un peuple particulier, mais celle de l'humanité tout entière. Cette lecture ne supprime pas la fête juive, mais la transpose sur un plan théologique nouveau, transformant une mémoire nationale en un événement cosmogonique universel. Arrêtons-nous quelques instants pour observer les rites et les coutumes de la Pâque juive tels qu'ils étaient pratiqués au 1er siècle. Tout d'abord, elle était célébrée au 14 Nissan à la pleine lune de printemps, selon le calendrier lunisolaire juif, et s'inscrit dans un cadre à la fois domestique et sacrificiel. Tant que le temple de Jérusalem était encore en fonction, ce qui était le cas au moment de la naissance du christianisme, la fête de Pessah était marquée par les sacrifices rituels des agneaux, offerts par les chefs de famille ou les pèlerins venus à Jérusalem. L'animal ou les animaux étaient ensuite consommés lors d'un repas codifié, accompagné de pain sans levain et d'herbes amères, rappelant la hâte du départ et l'amertume de l'esclavage. Ce repas n'est pas seulement commémoratif, il est aussi pédagogique et identitaire, structuré autour du récit de l'Exode. La Pâque juive du 1er siècle est donc un rite sacrificiel et une affirmation communautaire autour d'un roman national ou d'un mythe fondateur. Dans les premiers siècles du christianisme, la question du lien entre Pécha et la Pâque chrétienne fait l'objet de débats très importants. Certaines communautés célèbrent la résurrection en même temps que la Pâque juive, tandis que d'autres insistent sur une date proprement chrétienne. Et cette tension explique en partie la fixation tardive et complexe de la date de Pâques. Le christianisme hérite d'un calendrier de symboles et de récits qu'il va réinterpréter tout en affirmant une identité distincte. Pâques devient à la fois la mémoire d'un événement historico-mythologique et la proclamation d'un accomplissement théologique. Mais l'influence culturelle ne se limite pas au seul champ du judaïsme. Au-delà du cadre strictement biblique, la fête de Pâques s'inscrit aussi dans un moment clé du calendrier annuel, le passage du printemps. Dans les cultures antiques, cette période est associée au retour de la lumière, à la fin de l'hiver et à la renaissance de la nature. Bien avant l'apparition du christianisme et même du judaïsme, l'observation du cycle saisonnier a donné naissance à des rites célébrant la fertilité, la régénération, mais aussi la victoire de la vie sur la mort. Si l'on ne peut pas affirmer que ces différentes traditions constituent une source directe de la Pâque chrétienne, elles en constituent néanmoins l'arrière-plan symbolique ou le terreau de base. La raison est en fait extrêmement simple. Le christianisme naissant s'implante sur le pourtour méditerranéen, dans un monde païen, où les populations sont déjà coutumières des rites saisonniers du passage du printemps ou de l'équinoxe de printemps. Alors, pour citer quelques exemples de célébrations dans le monde antique, nous trouvons les Liberalia, qui sont des fêtes romaines célébrées le 17 mars en l'honneur de Liber Pater, divinité du vin, de la fécondité et de la liberté. Elles marquent symboliquement le renouveau printanier et le passage des enfants à l'âge adulte. Ce jour-là, les jeunes garçons romains abandonnent leur toge d'enfants pour revêtir la toge virile des hommes adultes et entre officiellement dans la citoyenneté. La fête associe des rites religieux, des offrandes populaires, notamment des gâteaux au miel. Il y a une dimension sociale mêlant fertilité, liberté et croissance. Plus proche encore de la symbolique de Pâques, nous trouvons la fête de Hilaria, une célébration romaine célébrée autour du 25 mars, liée au culte de Cybèle et Attis. Elle commémore la mort et la résurrection de Attis, symbolisant le retour de la vie au printemps après la période hivernale. Après des rites marqués par le deuil et l'austérité, jeûne et lamentation, les Hilaria donnent lieu à des processions joyeuses, des vêtements colorés et des réjouissances publiques exprimant la victoire de la vie, de la fécondité et du renouveau. Chez les Grecs, nous trouvons les Adonis, des fêtes de printemps consacrées à Adonis et ses amours avec Aphrodite et Perséphone. Ces fêtes sont célébrées principalement par des femmes et elles mettent en scène la mort prématurée du dieu Adonis et l'espoir ou l'attente de son retour ou de sa résurrection, à l'image du cycle végétal. Et on y cultive des jardins d'Adonis qui sont plantés avec une croissance rapide mais éphémère, symbolisant la vie brève vouée à disparaître. Les Adonis expriment ainsi de manière très directe la fragilité de la fécondité, la mort saisonnière de la nature et sa renaissance attendue avec le printemps. Toujours chez les Grecs, les Eleusinies sont des fêtes d'équinoxe, printemps et automne, dédiées aux déesses Déméter et Perséphone, centrées sur le cycle agricole. Le mythe du retour annuel de Perséphone hors des enfers symbolise la renaissance de la végétation au printemps après la mort automnale. Ces rites associent étroitement la fertilité de la terre, la régénération de la nature et l'espérance d'un renouveau tant cosmique que humain. Autre exemple, dans le zoroastrisme, Norwouz marque le nouvel an des Perses. Célébré à l'équinoxe de printemps, il symbolise le renouveau du monde, le retour de la lumière et l'ordre cosmique restauré après l'hiver. La fête est associée à la purification, à la croissance de la nature et à l'entrée dans un nouveau cycle vital, à la fois cosmique, social et spirituel. Enfin, pour prendre un dernier exemple, Akitu est le nouvel an mésopotamien, célébré au printemps, principalement à Babylone. Cette fête met en scène la régénération de l'ordre cosmique, la victoire des forces de la vie sur le chaos hivernal et la renaissance symbolique du monde. Elle associe le renouveau de la nature, la légitimité du pouvoir royal et l'équilibre entre les dieux, la cité et le cosmos. Donc, comme vous le voyez, le printemps a toujours été marqué par des rites de fertilité, de renaissance ou de retour de la lumière dans le monde. Et ce bien avant l'instauration de la fête de Pâques et même avant la naissance du christianisme. D'où posons-nous quelques questions. Le concept de mort et de résurrection est-elle véritablement une nouveauté du christianisme? Deuxièmement, pourquoi cet événement théologique se place habituellement au moment des anciens cultes de régénération du printemps? Enfin, qu'en est-il de la notion de sacrifice de Jésus pour le rachat des péchés de l'humanité? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. La mort et la résurrection constituent le cœur du mystère pascal. Mais force est de constater que cette thématique n'est pas totalement nouvelle. L'Antiquité nous offre une large palette de divinités qui meurent et qui ressuscitent. Ces récits expriment avant tout une compréhension cosmique du monde, où la mort n'est jamais définitive, mais intégrée à une cyclologie plus vaste. Si nous avons déjà cité les cas de Adonis et Attis dans les cultes grecs, nous pouvons trouver la même chose au Proche-Orient avec la figure de Baal. Dans les mythes phéniciens et cananéens, Baal affronte Moth, le dieu de la mort. Il est vaincu à l'automne et se trouve prisonnier des enfers, le monde des morts. Au bout de quelques temps, il est libéré grâce à l'intervention de sa sœur, Anat, et réussit à vaincre son adversaire. Ainsi, Baal revient régner sur le monde des vivants au moment de l'équinoxe de printemps. Et cet affrontement symbolique se déroule chaque année. Le combat du dieu de la fertilité est l'illustration du cycle saisonnier. Baal perd le combat à l'automne, il est aux enfers, il gagne le combat au printemps et règne sur le monde, etc., etc. Chez les Grecs, le mythe de Perséphone raconte une histoire symbolique qui transmet le même message. Coré, la fille de Déméter, est enlevée par Hadès à l'automne. En réponse à la disparition de sa fille, Déméter, la déesse des moissons, se retire et laisse la terre se dessécher. C'est l'origine mythique de l'hiver. À l'issue de négociations divines et de compromis, caractéristiques de la mythologie grecque, il est décidé que Coré passerait 6 mois de l'année aux enfers, sous le nom de Perséphone, et qu'elle remonterait dans le monde des vivants au printemps. Son retour provoque alors la joie de sa mère, qui régénère la nature, rendant à la terre sa fécondité, avant de se morfondre de nouveau au départ de sa fille à l'automne, et ce, dans un cycle infini de recommencement. Nous pourrions multiplier les exemples du mythe saisonnier de régénération du printemps, mais je pense que vous avez compris le principe. À ce stade, il ne s'agit pas de simplifier le problème de la résurrection du Christ à ces mythes, mais simplement de constater l'existence d'un langage symbolique qui est partagé. Dans les cas cités, ainsi que pour Pâques, il y a d'idées de mort et de voyage aux enfers comme le rapporte le texte du symbole des apôtres avec les 3 jours que Jésus passe aux enfers. Mais là où les religions antiques décrivent un éternel recommencement cyclologique, le christianisme quant à lui affirme que cet événement est unique. Mais il est curieux, ou disons opportun, d'avoir placé cet événement christique précisément au moment des innombrables fêtes printanières de régénération. À cela, plusieurs réponses peuvent être apportées. Tout d'abord, sur un plan religieux, la réponse n'est pas très compliquée. Dieu étant omniscient et omnipotent, il coordonne les événements afin de jouer la partie comme il l'entend, CQFD. Bien sûr, hors du cadre de la croyance, on peut néanmoins poser quelques réflexions. Déjà, le christianisme, en tant que réforme ou évolution du judaïsme, en reprend certains éléments. De fait, la Pâque chrétienne ne serait fondamentalement qu'une évolution de la Pécha juive avec une symbolique spirituelle beaucoup plus forte. Ce n'est plus un peuple qui est régénéré, mais toute l'humanité. Il est d'ailleurs important de préciser que la Pécha elle-même puise évidemment ses sources dans les rites saisonniers de régénération du printemps, qui existaient déjà dans la culture cananéenne du Proche-Orient bien avant l'apparition des Hébreux. Deuxièmement, dans sa perspective universelle, le christianisme avait tout intérêt à proposer une fête ritualique sur cette date clé du calendrier. Cela permet une intégration plus simple pour les nouveaux convertis et permet une meilleure transition, mais aussi à long terme de supplanter et d'effacer les anciens rites païens. Donc, la position calendaire de la Pâque chrétienne est extrêmement bien pensée stratégiquement. Jésus, le mort qui a ressuscité, prend place au moment précis de l'année où tous les peuples antiques célèbrent la résurrection de la nature. Cette stratégie permet à Pâques de s'ancrer durablement dans les cultures locales tout en proposant un autre sens doctrinal. La fête chrétienne ne se dissout pas dans le paganisme, elle s'impose à lui en lui donnant un nouveau sens théologique. Si la date de Pâques n'avait pas été coordonnée avec les anciens rites de régénération, le christianisme s'exposait à une persistance de fêtes concurrentes. Mais reste encore la dernière question en suspens, la notion de sacrifice de Jésus pour le rachat des péchés de l'humanité. Le propre du christianisme est que Jésus constitue la figure messianique du Sauveur, et ce n'est pas un simple homme-dieu qui meurt et ressuscite, mais son sacrifice prend un sens théologique complexe. Dans ce cadre, Jésus meurt afin d'accomplir son message, réparer une faute cosmique, le péché originel. Mais cette notion est-elle totalement nouvelle? La réponse est complexe, car en première lecture, on pourrait penser que oui. Les voyages aux enfers de Baal, Adonis ou Perséphone n'ont absolument pas pour fonction de racheter une faute cosmique, pas plus que de sauver l'humanité au sens strict. Ils matérialisent la régénération du cycle cosmique auquel l'homme appartient, mais ce n'est pas directement centré sur l'humanité. Cependant, si on cherche un petit peu plus loin, plusieurs figures divines partagent des analogies avec Jésus-Christ. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr Osiris. Lui aussi est un dieu assassiné, son corps sera démembré et finalement régénéré pour devenir le juge des âmes dans l'au-delà, celui qui offre les clés du paradis pour faire simple. Bien sûr, Osiris revient à la vie sous une autre forme, pas au sens corporel immédiat. Mais si l'on regarde bien, nous sommes assez proches de Jésus. Ce dernier est censé ressusciter corporellement, certes, mais il ne reste pas sur terre. Il s'élève dans les cieux après quelques derniers enseignements. Ensuite, il trône aux cieux et offre le chemin du salut aux hommes. Au-delà des termes et des cadres culturels de la croyance, ce n'est pas si différent. Mais l'illustration est encore plus parlante avec l'exemple de Dionysos dans le cadre des cultes à mystère grecs. Dans la cosmogonie orphique, en Grèce, Dionysos s'appelait à l'origine Zagreus. Il était le fils de Zeus et de Perséphone, et il incarnait dès sa naissance le principe divin primordial destiné à régner sur le cosmos. Selon le mythe, Zeus, le père céleste, lui confie le sceptre, annonçant sa future souveraineté sur le monde. Mais cette élection provoque la jalousie des titans, qui s'emparent de Zagreus, le mettent à mort et le démembrent. Les titans dévorent sa chair divine afin d'obtenir ses pouvoirs, ne laissant subsister que son cœur, sauvé par la déesse Athéna. Zeus, découvrant le crime, foudroie les titans. Et de leurs cendres, mêlées à la chair divine de Zagreus qu'ils avaient consommée, naquit l'humanité, porteuse à la fois de la faute titanesque et de l'étincelle divine de Zagreus. Un peu comme l'humanité maudite, chassée du jardin d'Éden. Le cœur préservé de Zagreus permit à Zeus de le faire renaître sous une nouvelle forme dans un corps mortel, sous le nom de Dionysos, fils d'une mortelle du nom de Sémélé, à la façon de la Vierge Marie. Sauf que cela finit moins bien pour Sémélé lorsque cette dernière demande à contempler Zeus dans sa magnificence et finit foudroyée à cause de cette vision divine. De nombreuses années plus tard, Dionysos ayant le désir de revoir sa mère mortelle, il va accomplir une descente aux enfers, une catabase, afin d'y retrouver Sémélé, sa mère mortelle. Dans l'Hadès, Dionysos rencontre Perséphone, la souveraine du monde infernal, et surtout sa véritable mère divine sous le nom de Zagreus. Il obtient d'elle la libération de Sémélé, sa mère mortelle, par reconnaissance de sa nature divine originelle de Zagreus. Perséphone consent à laisser partir l'âme de la femme mortelle, qui est alors conduite vers l'Olympe. Là, Sémélé est divinisée sous le nom de Dionée et rejoint le rang des immortels. Un peu comme l'Assomption de la Vierge Marie. Du côté de Dionysos, ce dernier revient dans le monde des vivants, où il devient le dieu du vin, de l'ivresse sacrée, de l'extase et de la transgression. Celui qui franchit les frontières de la vie et de la mort, de l'ordre et du chaos. Ainsi, dans l'orphisme, la mort et la renaissance de Dionysos ne sont pas seulement un mythe divin, elles fondent une anthropologie ésotérique. L'homme est un être déchiré, né d'un crime, mais porteur d'un principe immortel en lui. Par l'initiation, l'ascèse et le rituel, l'âme humaine peut espérer se libérer de cet héritage titanesque et retrouver sa part dionysiaque remise à une renaissance au-delà du cycle des existences. Vous l'aurez compris, Jésus partage beaucoup, beaucoup de points communs avec Dionysos Zagreus, jusqu'à la consommation du pain et du vin, corps et sang du Christ, en équivalence avec la chair divine consommée par les titans et qui offre l'espoir du salut de l'humanité, s'ils éveillent leur nature divine qui sommeille en eux. La ressemblance entre le mythe initiatique orphique et le mystère pascal permet de penser, ou du moins d'émettre, l'hypothèse que plusieurs des premiers chrétiens furent en réalité eux-mêmes initiés au mystère orphique. Sur le plan de la foi, l'argument principal pour s'y opposer consiste à dire « Oui, enfin c'est bien joli tout ça, mais la différence fondamentale est que Jésus a véritablement existé sur un plan historique, alors que ce n'est pas le cas pour Dionysos Zagreus. » Mais en revanche, sur un plan historique, nous pouvons contre-argumenter assez aisément. En premier lieu, il est tout à fait possible qu'un individu dans le monde grec des temps passés ait inspiré le personnage mythique de Dionysos. De la même façon que le Jésus historique et sa mort réelle ont pu inspirer le Jésus-Christ des textes religieux. Eh bien oui, car nous ne disposons d'aucune source non chrétienne pour valider les prétentions historiques des quatre évangiles canoniques, qui furent composés entre l'an 60 et l'an 120 de notre ère. Aucune source romaine, grecque, égyptienne ou perse, etc. Aucune ne mentionne la résurrection de Jésus, ni même ses miracles. Même son existence historique est très fragmentaire et ne semble pas avoir intéressé les auteurs de l'époque. Ce qui est très étrange, vous en conviendrez, si les prétentions des évangiles sont exactes. La conclusion est simple, du moins sur un plan symbolique. Évidemment, je ne parle pas de foi. La figure historique de Jésus a servi de base pour la création d'un mythe allégorique complexe, à l'instar des mythes symboliques plus anciens de Dionysos ou de Osiris. Le mystère pascal et la fête de Pâques sont aussi l'héritage de traditions antiques bien plus anciennes qui s'articulent dans un cadre religieux païen. Pâques n'est que le nouveau visage de cet archétype symbolique dans un cadre monothéiste. Cette fête illustre les trois aspects fondamentaux. En microcosme, c'est l'espoir d'une vie par-delà la perspective de notre propre mort. En macrocosme, c'est l'illustration du cycle saisonnier de la nature et de sa régénération périodique. Et sur le plan spirituel, la nature divine qui sommeille en l'homme et qui doit être réveillée. Nous voici arrivés à la fin de cette enquête et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Ces sujets, aussi sensibles soient-ils, étant donné qu'ils touchent le cadre religieux, nous permettent d'entrevoir la complexité de l'histoire humaine, son rapport à la mort, à la vie et notre place dans l'univers. Des fêtes comme Pâques et toutes les autres sont un héritage précieux qu'il convient d'entretenir et de préserver. Les fêtes changent de nom, les mythes changent, mais l'archétype reste le même. Alors, si vous avez apprécié ce travail, pensez, comme à l'habitude, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à me dire quels autres sujets vous aimeriez me voir traiter dans de prochaines émissions. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches et je vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques. À très bientôt.